invitation. Je suis un peu intimidé parce que moi, ce que je fais dans mon travail, c'est beaucoup plus de l'action. On aide les entreprises, les agents de développement économique. On travaille aussi au niveau de l'attraction des investissements au Québec. Donc, c'est évidemment du travail d'analyse, du travail de réflexion, mais c'est beaucoup, je dirais, sur le terrain, à rencontrer des gens, des entrepreneurs en particulier. Alors, excusez-moi si des fois c'est peut-être un peu décousu la façon dont c'est présenté. J'ai pensé le faire en trois sous-sujets, là, assez simple. Premièrement, un rappel nécessaire sur les relations économiques Québec-États-Unis. Ensuite, revoir un peu plus l'action du gouvernement du Québec vers les États-Unis, les actions que je dirais de premier niveau, deuxième niveau. Et ensuite, les quelques défis pour les entreprises québécoises aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est là, probablement, où je vais avoir pour une plus grande, peut-être un plus grand input dans la discussion. Alors, 15 minutes, c'est une mise en perspective. Je commence par dire que les relations économiques Québec-États-Unis, je vais vous amener plusieurs éléments d'information que vous savez peut-être déjà, mais qui sont peut-être plus complets que ce qu'on véhicule comme information généralement. Évidemment, la plupart des économistes, la plupart des analystes recensent les flux commerciaux plus faciles à utiliser, et c'est très incomplet. Ça donne quand même une idée. Le Québec, 9e partenaire, avec aujourd'hui, si on prend l'année passée, 68 milliards export-import. C'est beaucoup moins que ça a été à un moment donné. Il y a quand même 4 milliards d'actifs qui entrent des États-Unis en investissement direct par année. Je dis 4 milliards, ça varie d'une année à l'autre. Ce qu'il faut comprendre aussi au niveau des relations économiques entre Québec et les États-Unis, c'est la forte intégration des chaînes de valeur. Qui dit chaîne de valeur, dit entreprises qui sont établies de chaque côté de la frontière. Lorsqu'on regarde des exports-imports, pensez toujours qu'il y a au moins la moitié de tous ces chiffres-là qui sont des entreprises qui se intra-entreprises qui s'achètent et se revendent de chaque côté de la frontière. Des grosses boîtes. Pour le Québec, c'est les grands employeurs de milliers au total d'employés, de citoyens américains, des entreprises vraiment comme Bombardier, CGI, Saputo, Cascade, pour n'en nommer que certains. La Caisse de dépôt du Québec, Caisse de dépôt et placement, a à peu près comme actif 40 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, ça fait quand même une force de frappe importante aux États-Unis. Et les chaînes de valeur, évidemment, en aéronautique, très importantes, en transport terrestre, en électronique, et aussi dans plusieurs autres domaines qui sont plus des domaines de ressources naturelles, des produits semi-transformés comme le bois, l'aluminium, les métaux. C'est aussi très important, le Canada étant un exportateur, ou encore aujourd'hui, de matières premières ou semi-transformées. Les États-Unis sont un client majeur pour l'exportation d'électricité pour le Québec. C'est un enjeu total. Et aussi, dans l'ensemble du tableau, évidemment, il y a le tourisme, il y a la culture, il y a l'éducation, et il y a aussi des flux financiers dont on ne parlera pas, mais qui sont quand même importants et compliqués aussi. Les facteurs déterminants, on a essayé de répondre à la question qu'est-ce que ça a donné l'ALENA en regardant les principaux facteurs qui ont expliqué la croissance ou la décroissance des échanges entre le Québec et les États-Unis ces dernières années. Il y en a quatre qui sont les majeurs, en commençant par la valeur relative de la devise. Je vais y venir dans deux secondes. Évidemment, la croissance économique aux États-Unis en elle-même est très importante pour expliquer tout ça. La barrière au commerce et à l'investissement, évidemment, l'ALENA, etc., on en parle, et la compétitivité du Québec en tant que telle qui nous rattrape avec les années, ça aussi extrêmement important. Les accords de libre-échange améliorent les conditions de commerce en abaissant évidemment les barrières tarifaires. Ils vont créer aussi un milieu plus stable dans les échanges, mais en même temps, ils n'expliquent pas tout. La première période, celle des années 90, qui est très enseignante aujourd'hui pour ce qu'on a à faire, on a connu une chute vertigineuse du dollar qui est passée de, en peu de temps, de 90 sous à 65 sous comme valeur américaine. Ça a provoqué évidemment une hausse d'exportation puis un excédent commercial très significatif. Et ça a coïncidé évidemment avec l'entrée dans une longue période d'expansion économique aux États-Unis. En 2003, on était déjà rendu dans une autre période, et c'est l'ensemble finalement de la décennie des années 2000. Ça a été beaucoup un dollar plus fort à partir des années 2003. Et l'arrivée de la Chine comme un compétiteur majeur. J'ai choisi ce tableau-là puisqu'il est le plus parlant. La part de la Chine dans l'ensemble du marché américain est passée de 3 % à presque 20 %. Alors, c'est significatif. Pendant ce temps-là, le Québec, ça n'a pas bougé, ça est resté à 3 %. J'ai dit tantôt 3 %, c'est de 8 à 19 % pour la Chine, et pour le Québec, ça n'a pas bougé. Le Québec a perdu des parts de marché, en particulier dans les secteurs qu'on dit à faible technologie. Tout le domaine des biens de consommation, le vêtement, on a perdu au Québec en peu de temps quelque chose comme 30 et 40 000 emplois. Le meuble, l'électronique de faible technologie, de sorte que tous ces secteurs-là confondus ont fait que le Québec, pendant les années 2000, n'a pas su profiter de la croissance économique qu'on connaissait aux États-Unis. Nos exportations sont passées d'un seuil qui était d'à peu près 65 milliards à quelque chose comme, autour des années 2008, quelque chose comme 50 milliards, excusez-moi, je vais revenir sur le chiffre, là. Alors, aujourd'hui, c'est de 80. On avait 83 % de nos exportations qui allaient aux États-Unis, c'était considérable. À cette époque-là, les gens chez nous disaient c'est trop, on est trop à risque, les États-Unis. Aujourd'hui, on est à 65, 68 %. On nous dit encore chez nous qu'on est à risque, mais pour d'autres raisons. Alors, jusqu'à l'année, évidemment, 2008, à partir de cette période-là, évidemment, avec la crise économique, on rentre dans une autre période. On est dans cette période-là depuis ce temps-là. On a perdu 10 milliards d'exportations en l'espace d'un an, 2008. Alors, on vit avec cette période-là. Maintenant, je vais parler un petit peu plus des relations du Québec avec les États-Unis au niveau de l'action du gouvernement du Québec. Je vais passer vite là-dessus, puisqu'on en a peut-être déjà parlé. Évidemment, les relations gouvernementales, le gouvernement du Québec, avec principalement les États américains de proximité, Nouvelle-Angleterre et New York, on agit beaucoup au niveau des développements des exportations, de l'attraction d'investissements américains et beaucoup de la coopération bilatérale en sciences, recherche et technologie. On a 6 bureaux aujourd'hui aux États-Unis. Vous les connaissez probablement déjà. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que n'importe quel autre gouvernement subnational au Canada. Les récentes politiques économiques, je passe par-dessus ça rapidement, puisque vous en avez déjà entendu parler, mais c'est très important à prendre en considération, puisque c'est l'action du gouvernement du Québec de second niveau, de se recréer une compétitivité aux États-Unis, notamment avec l'ambition de se donner une filière industrielle dans le secteur de l'électrification des transports. Au niveau de la politique commerciale, je reviens sur les grandes lignes. Le gouvernement du Québec a été, depuis le début de la négociation de l'ALENA, il a apprécié avec le temps l'efficacité des mécanismes de règlement des disputes. On souhaite évidemment approfondir l'intégration des trois pays. Sans remettre évidemment en question les domaines qui sont aujourd'hui exclus, notamment la culture, l'éducation, évidemment tout en supportant l'initiative sur la sécurisation des frontières dont on a déjà parlé. Je vais arriver principalement à mon input au niveau des défis actuels pour les entreprises, Il y en a trois techniques, puis il y en a d'autres qui sont plus, je dirais, commerciaux et économiques. Évidemment, le Buy America. Le Buy America, c'est une question qui est majeure pour nous, pour les entreprises avec lesquelles on parle, qui font en sorte que de réduire l'accès des entreprises québécoises et canadiennes aux projets qui sont financés par des budgets fédéraux américains. Il y a une difficulté qui tient à l'inexistence d'obligations pour les marchés au niveau des États et des municipalités aux États-Unis. L'industrie du transport, notamment au Québec, est affectée de plein fouet. Il y a aussi la question des organismes réglementaires qui sont très sévères dans plusieurs domaines aux États-Unis, qui constituent encore aujourd'hui une barrière, notamment dans le secteur des sciences de la vie, le secteur de l'électronique. C'est quelque chose sur lequel on devra travailler les prochaines années. Et aussi, tout le dispositif qui est relié à la mobilisation de la main-d'œuvre. La MENAR a facilité aujourd'hui les conditions pour les voyageurs d'affaires, les professionnels qui travaillent à l'intérieur des entreprises, mais il y a encore beaucoup à faire, les entreprises vous en parlent régulièrement. Je voudrais terminer sur une liste de défis qui attendent les entreprises québécoises aujourd'hui aux États-Unis. Évidemment, une meilleure intégration dans la chaîne des valeurs. L'innovation pour les entreprises est un défi au niveau de sa commercialisation aux États-Unis. On assiste aujourd'hui à une révolution énergétique avec la croissance phénoménale de l'industrie du gaz, le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Ça pose des défis à plusieurs niveaux pour nos entreprises. Ça pose des défis à Hydro-Québec aussi. Il y a un phénomène de reshoring, c'est-à-dire un retour de la fabrication, des activités de fabrication en Amérique. Et on essaye aujourd'hui de tirer parti de ce phénomène-là, qui est une espèce de réaction par rapport à l'offshoring qu'on a connu dans les 10, 15, 20 dernières années. Il y a un défi de présence physique permanente de nos entreprises. Il faut qu'elles soient là pour tirer profit d'une réelle implantation. Le gouvernement du Québec a travaillé d'ailleurs ces dernières 2-3 ans à mettre en place une nouvelle formule de bureau d'affaires qui permet aux entreprises de s'implanter. Il y a toujours le risque dans l'opinion publique que ça soit interprété comme une démobilisation, une fuite des entreprises, mais ce n'est pas vraiment le cas puisque les contrôles demeurent au Québec. Il y a aussi un autre défi qui est la diversification régionale des États-Unis. Les États-Unis n'existent pas. Ce sont des États-Unis. La croissance est plus forte, évidemment, dans le sud et sur la côte du Pacifique que dans le nord-est. On peut en débattre, là. Ça se passe au niveau à l'intérieur des États de sous-région. Le Texas, notamment, est une des cibles pour amener nos entreprises à être plus présentes là, puisqu'il y a une croissance économique et démographique plus importante. Alors, en peu de mots, le but, c'était de mettre un peu la table aux discussions. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Le service public, c'est sa raison d'être aussi. Alors.
Merci, Daniel.